Audiolib présente « Il n'y a pas de hasard, monologue contre l'identité » de Delphine Horviller, lu par l'auteur et Johanna Nizar.
Préface. Gary Mondy Book. Avouez que c'est une drôle de coïncidence. Précisément l'année où je viens au monde, il commence à signer du nom de l'autre. Comme par hasard, au moment même où un officier d'état civil écrit soigneusement mon nom dans un registre municipal et estampille ma déclaration de naissance, Romain Gary choisit, lui, de publier ses livres sous pseudo. Il s'invente à cette date un patronyme qui offre à sa carrière littéraire un virage dramatique, une renaissance. En 1974, année des débats de la future loi Veil dans le gouvernement Chirac et du Tigre dans l'horoscope chinois, Romain Gary s'autorise une interruption volontaire de bibliographie officielle. Il décide soudain de rugir sous un autre nom et se crée une identité littéraire qui fera couler beaucoup d'encre. 1974, c'est l'année où Gary brouille toutes les pistes et donne naissance à Émile Ajar. Je viens donc au monde au moment précis où Gary élargit le sien de toute une palette de possibles. Il écrit Gros câlin, La vie devant soi, Pseudo et L'angoisse du roi Salomon sous sa fausse identité, tout en continuant à publier simultanément sous sa première signature Clair de femme, Charge d'âme ou Les cerfs-volants. Il rit de l'entourloupe ahurissante dont il a accouché. Il jubile, surtout lorsqu'il constate que les plus grands critiques littéraires de son temps n'y voient que du feu et affirme qu'avec Ajar est né un vrai écrivain, une grande plume, un auteur qui a tout de même autre chose à apporter au monde que la petite littérature ringarde et surestimée d'un Gary dépassé. À peine né, ce double littéraire lui rapporte un deuxième prix Goncourt, en plus de celui qu'il avait déjà gagné sous son premier nom d'auteur. L'affaire Gary Ajar devient la plus grande supercherie littéraire du XXe siècle. Voilà comment un homme se met à écrire simultanément sous un nom et sous un autre, et signe là une stratégie de survie littéraire, ou de survie tout court. Un stratagème qui rendrait jaloux tous les désespérés de la Terre. Renaître de son vivant et déjouer le morbide qui vient toujours de la conscience d'être arrivé quelque part. Gary réussit ainsi à sortir de l'impasse existentielle dans laquelle tombe tout homme reconnu pour son œuvre. Il retrouve un avenir. Bien sûr, aucun canular n'est éternel. La mort rattrape les filouteries comme les hommes qui les mettent au point. Après quelques années, Romain Gary se donne la mort, sans avoir révélé au monde qu'il était cet Ajar, supposément plus talentueux que lui-même. Avant de mourir, il prend soin de laisser un document à publier à titre posthume. Il y confesse son entourloupe, mais insiste pour que la révélation ne soit pas immédiate. Il tient à mourir un peu avant son mensonge. De retour d'un déjeuner, il tire les rideaux de son appartement et une balle dans sa gorge. Nous sommes en 1980. J'ai alors à peine 6 ans. Au cours préparatoire, comme tous les gens de mon âge, je tiens entre mes doigts un stylo. J'apprends à lire et à écrire. Avouez que c'est troublant. C'est exactement à ce moment-là que Romain Gary se débrouille pour ne plus jamais pouvoir faire ni l'un ni l'autre, ni lire, ni écrire, ni sous un nom, ni sous un autre. Il se débrouille pour interrompre sa vie d'auteur et de lecteur et pour qu'on ne puisse jamais, lui et moi, se rencontrer ailleurs que dans son œuvre. Croyez-moi, je ne suis pas prête à lui pardonner ce timing. Pas prête à l'excuser de m'avoir posé un tel lapin et à m'obliger à dialoguer avec lui exclusivement entre les lignes de ses livres ou des miens. Quel égoïsme ! Je sais bien ce que vous vous dites. Tout cela est absurde et terriblement narcissique. Ça suffit de tout ramener à soi, de s'imaginer que ceux qu'on admire indexeraient leur vie ou leur mort sur notre biographie, ou pire, sur nos petits besoins de lecteurs ou d'écrivains. Ça suffit de s'imaginer des liens privilégiés avec des auteurs sous prétexte que leurs œuvres nous touchent, de croire que leur vie et leurs écrits nous adressent un message que nous serions seuls capables de décoder. Il serait temps d'être raisonnable et d'admettre une vérité.